Radio Cité Genève.
Cité Culture. Yann Bellini.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur nos ondes. Aujourd'hui, nous nous rendons à la Fondation Martin Bodmer à Cologny où est présentée jusqu'au 2 novembre l'exposition nommée L'Histoire à la Une. Et lorsque nous parlons dans le titre d'histoire, cela concerne en premier lieu le XXe siècle et ses événements majeurs, pas nécessairement tragiques d'ailleurs. Quant à l'expression à la Une, eh bien sachez, chers auditeurs, qu'elle renferme toute l'originalité et tout le sens de cette exposition. À côté des collections d'écrits littéraires de la Bodmer Yana, que les plus fidèles habitués de la Fondation Bodmer d'entre vous commencent à connaître, vient se greffer plus d'une cinquantaine de unes de journaux appartenant au collectionneur, journaliste et porte-parole à l'OMC, Joseph Bosch. Vous l'avez compris, chers auditeurs, cette exposition, L'Histoire à la Une, est l'occasion d'une rencontre. Une rencontre permise par la scénographie qui nous propose une déambulation entre deux écritures, celle d'artiste, auteur, historien, caractérisée par un temps de réflexion et de recul vis-à-vis de l'histoire avec un grand H, et celle des journalistes toujours dans l'instantanéité au plus près d'événements isolés. Vous qui nous écoutez, cette rencontre, cette confrontation ne vous semble peut-être être que des mots, mais peut-être partagerez-vous mon enthousiasme une fois que vous aurez pu approcher ces différents niveaux de témoignages d'une même époque. Avis à tous les intéressés par l'histoire, de près ou même de loin. Nous avons interviewé le collectionneur Joseph Bosch à propos de l'exposition L'Histoire à la Une, pour laquelle il est aussi commissaire invité. Il nous raconte comment sa collection de journaux crée du sens une fois juxtaposée avec les collections de la Fondation Martin Bodmer.
On a essayé de faire une sélection de meilleurs journaux de ma collection, surtout ces journaux qui parlent de l'histoire, des événements, surtout du XXe siècle. Mais ce n'est pas seulement des questions tragiques comme la guerre, mais aussi des idéologies politiques, des événements importants pour le progrès de la science. Il y a le premier bol de l'histoire, il y a les Concorde, il y a l'arrivée à la Lune, il y a aussi des écrivains et les œuvres qu'ils ont faites. Il y a un peu de tout. On commence avec la tragédie de la Première Guerre mondiale et on aboutit à les progrès scientifiques de nos dernières années. Ça a été une sélection un peu difficile parce que j'ai beaucoup de journaux. Pour moi, tous sont très chers, très intéressants pour moi, mais bien sûr que dans une fondation où la qualité, c'est le numéro un des critères, on doit pas abusé de mettre beaucoup de journaux. C'est pour ça qu'on a fait une sélection de quelques journaux. Je pense qu'il y a comme 60. Et à côté des livres, des manuscrits, des autographes, les choses importantes qu'il y a dans cette fondation, le trésor en papier qu'il y a ici.
Alors avant de parler de cette sélection du contenu, en fait, peut-être pouvez-vous nous raconter la genèse de cette collection, parce qu'il faut avoir un certain amour, une fascination, c'est presque obsessionnel finalement envers ces objets. Comment ça vous est venu tout simplement?
Alors, j'étais journaliste pendant presque toute ma vie. Les journaux sont une passion pour moi. Même maintenant, je peux pas lire un journal ou une information online dans l'ordinateur. Je dois avoir le papier. Je vais même goûter l'arôme de l'encre fraîche. Mais ça, j'ai commencé déjà il y a beaucoup de temps. Je m'en souviens que j'ai acheté le journal de l'assassinat de Kennedy quand j'étais très petit. J'étais 10 ans dans ce moment-là. Mais je ne l'ai pas gardé. Et après, en 1968, j'ai vu dans les rues de Barcelone, où j'étais étudiant, j'ai vu un journal français, c'était le François, qui est disparu maintenant, un graphisme très intéressant. Il y avait un grand titre sur la révolution des étudiants à Paris en mai 1968. Ça m'a frappé et j'ai dit, ah, je vais acheter ce journal parce que c'était spectaculaire. C'était un journal de grand format avec une photo de tous les bouleversements qu'il y avait, les émeutes qu'il y avait à Paris. Je l'ai acheté et je peux dire que c'est le premier journal que j'ai acheté et j'encore garde. Après, j'ai continué de garder les journaux des événements importants. Après ça, il y a eu, en août, il y avait l'invasion de Tchécoslovaquie. Dans ce moment-là, il y avait un espoir politique de liberté dans le pays. et les troupes russes ont envahi. Et ça, ça a été aussi une occasion pour voir de gros titres dans la presse. J'ai acheté pas mal de journaux concernant cet événement. Après, il y a eu l'assassinat de Robert Kennedy. Et après, il y a eu l'assassinat de Martin Luther King. Alors, il y avait pas mal d'événements qui m'ont donné la possibilité d'initier cette collection. Quand j'étais à Londres comme correspondant de la presse espagnole, j'arrivais là en 1977 et j'ai vu qu'à Camden Town, que c'est un lieu connu pour tous les touristes, il y avait un marché de journaux anciens, britanniques, surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne savais pas qu'il y avait un marché comme ça. Et alors j'ai commencé d'acheter des journaux de la guerre, la déclaration de guerre, la première bataille. J'ai dit, si à Londres il y a beaucoup de journaux, dans d'autres villes du monde il y aura aussi. Alors j'étais à Paris, j'ai vu que c'est la même chose. Les bouquinistes qu'il y a près de la Seine, là j'ai trouvé des choses intéressantes. Le troisième chapitre, c'était Internet. Parce qu'avec Internet, tu peux entrer en contact avec d'autres collectionneurs, tu peux entrer en contact avec des maisons des enchères online dans tout le monde. Et là, j'ai acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup de journaux anciens parce que j'ai fait l'archéologie du papier, chercher le journal, par exemple, de la déclaration de la Première Guerre mondiale, 1914, ou la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les idéologies de cette année terrible des années 30. La montée de Hitler au pouvoir, Mussolini, la libération de la France à la finale de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça, c'était un voyage fascinant pour moi, parce que j'aime beaucoup l'histoire aussi, et j'aime beaucoup la manière que les journaux présentent les nouvelles. Ça a été un voyage pour le tunnel du temps, qui a été fascinante et que j'ai encore poursuivi, parce que hier j'ai reçu des journaux d'Escossie concernant le référendum qu'il y a là. Et maintenant je prépare une map des journaux espagnols concernant le référendum. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura le mois prochain. Il y a une crise politique là, alors on doit être tout le temps en contact avec ce qu'on peut avoir comme journaux. Et quelquefois, je demande des journaux et on me dit, ah, mais tu as l'information online. Et je dis, non, c'est pas ça que je veux. Je veux les papiers.
Donc voilà, vous voulez le papier, le contact avec le papier, c'est que voilà, il y a un certain amour pour le matériel. Ça doit être un calvaire, en fait, pour entretenir toutes ces collections, parce que le papier, par définition, c'est quand même une matière extrêmement fragile, même pour l'exposer, j'entends.
C'est vrai que ces journaux, ils étaient prévus pour durer un seul jour. Peut-être moins, parce qu'il y avait beaucoup d'éditions différentes pendant la journée. Alors j'essayais de donner de nouveau la vie dans un journal qui était prévu pour durer un jour. Alors, ces journaux sont ici après 100 ans, ou même plus. Quelques journaux de cette collection, je les ai trouvés très abîmés, très, très, très abîmés, presque détruits, parce que l'humidité, la sécheresse, la lumière surtout, la manière qu'on les a gardés dans quelques bibliothèques ou dans des maisons. Et alors, ce que j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait une exposition à la Bibliothèque nationale de Vienne, une prestigieuse salle, et là, après cette exposition, on m'a offert de faire réparation de quelques journaux qu'ils étaient abîmés. J'ai dit très bien, volontiers, c'est intéressant pour moi. Mais alors, c'était un peu problématique d'envoyer les journaux en Autriche, à Vienne, pour faire la restauration. Et j'ai cherché, et j'ai trouvé ici à Genève, une petite boutique qu'il y avait aux grottes. Et là, j'ai fait pas mal de restaurations de journaux. Essentiellement, on les met dans un bain de solution alcaline, que pour moi, c'était une chose incroyable. Je dis, ah, les papiers qui vont dans l'eau? Ah oui, mais c'est une solution qui neutralise l'élément chimique qu'on a utilisé pour tourner les papiers blancs. Et comme ça, beaucoup de ces journaux ici, on les peut exposer, on les peut même toucher, parce que sinon, serait impossible.
Et justement, aussi, la juxtaposition de tous ces journaux ici, ça nous permet aussi de mettre toutes ces époques que vous avez mentionnées précédemment en perspective, c'est redonner une vision de l'histoire aussi, parce que ça a quelque chose d'assez insolite de voir des unes qui titrent sur la mort de Marilyn Monroe, des unes de propagande aussi issues de divers pays, diverses époques encore. Ça permet de redonner aussi une vision de l'histoire. C'est peut-être aussi là votre ambition, parce que vous exposez vos collections beaucoup aussi.
Mais c'est pas seulement une vision de l'histoire, c'est une vision de les premiers jours d'un événement. Mon intérêt, c'est de trouver le journal du jour même, si possible, les éditions extraordinaires. L'endemain, bien sûr qu'il y aura une explication un peu plus complète de ce qui s'est passé, mais pour moi, de voir une édition extra d'un journal de 1914, avec par exemple l'assassinat de Sarajevo ou la déclaration de la Première Guerre mondiale, dans un paragraphe, dans un journal qui dit extra, gratis, parce qu'on donnait tous ces journaux à l'époque, il n'y avait pas la télévision, alors on donnait ces journaux dans la rue pour promotionner le même journal. Ça, pour moi, c'est tout à fait extraordinaire. Et je dis, c'est le tweet d'aujourd'hui, parce que quelquefois la nouvelle, on l'a donnée dans une phrase, qu'on a dit imprimer, distribuer, bien sûr, mais c'est comme le tweet d'aujourd'hui que c'est le message initial d'urgence.
Et justement, que penser aussi des échos aussi dans l'exposition avec les collections de Bodmer et Rihanna? Parce que ça crée un parallèle assez intéressant aussi autour de ces deux pratiques professionnelles de l'écriture, le livre avec le temps de la réflexion, et vous l'avez mentionné aussi, l'instantanéité de l'écriture journalistique. Donc c'est vrai que ça crée là un parallèle assez intéressant et ça met encore d'autant plus en valeur cette instantanéité dont vous parlez.
On a cette intention de trouver les moments plus proches de l'événement, dans la publication d'un livre ou dans l'exposition d'un journal. C'est un assemblage tout à fait extraordinaire, parce que, par exemple, à côté du journal allemand, l'orgue officiel du parti nazi, le Volkskiefer Beobachter, ce journal où il y a la nouvelle de la montée de Hitler au pouvoir, il y a à côté les manuscrits ou un papier où Hitler a écrit les lignes principales de son discours. Ça, c'est incroyable. À côté de la construction du mur de Berlin, qui c'était une idée staliniste, il y a un portrait de Staline avec son autographe. À côté du journal qui nous raconte la révolution bolchevique, il y a la première édition de Das Kapital. À côté de l'arrivée à la Lune, The Washington Post, The Eagle Has Landed, à côté de ce journal 1969, il y a un livre de Julius Verne, Le voyage à la Lune. Et aussi un livre qui a été dans une navette spatiale et qui a tourné le monde plusieurs fois. Quelquefois sont des livres qui ne sont pas les premières éditions, sont des éditions avant de la première où on a fait les corrections. Mais ça, c'est le trésor de la Bodmer.
D'autant plus que, à propos de la scénographie de cette exposition, toujours, vous avez parlé des qualités graphiques, esthétiques aussi de ces journaux, parce que c'est vrai que c'est pas anodin quand même une exposition de une de ces journaux, mais voilà, il y a une qualité esthétique, tout simplement, qui s'en dégage et qui donne également du sens. Un collectionneur comme vous doit être ravi aussi de cette scénographie.
Je crois pas ma chance d'avoir une exposition ici avec des personnages comme Nicolas Dismitière, qui a fait la sélection de livres, avec une scénographe comme Stassa Bibic, qui a fait un travail tout à fait professionnel incroyable, d'une méticulosité que je trouve quelquefois impossible de suivre, parce que quand il y a la perfection comme bout de travail, c'est pas possible pour tout le monde de suivre cette ligne. Pour moi, c'est tout à fait une expérience que j'ai jamais vue dans ma vie, d'avoir cette possibilité de mettre dans une même vitrine l'histoire vue comme le journal, qui sont la première ligne, les premières lignes de l'histoire, et les livres qui, après, on les a utilisés pour faire des réflexions politiques, philosophiques, historiques. Alors, je suis très content de la manière qu'on a présenté ça et j'espère que tous les visiteurs auront la même impression.
Merci Joseph Bosch, on l'espère aussi. Rappelons à nos auditeurs que vous êtes le collectionneur, mais aussi commissaire invité pour cette exposition « L'histoire à la une » aux côtés de Nicolas du Cimetière et de la scénographe Stassa Bibic. Une exposition qui est visible jusqu'au 2 novembre à la Fondation Martin Bodmer à Cologny. Très belle exposition, d'ailleurs on ne saurait que trop vous la recommander, et plus particulièrement aux scolaires. Si par bonheur quelques professeurs d'histoire nous écoutent, voilà une excellente idée de sortie pour vos élèves, vous ne les ennuierez pas. Cité Culture, votre rendez-vous sur les sorties culturelles genevoises, c'est terminé, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un nouveau numéro. À très vite sur Radio Cité Genève.